Flash Info, Nicolas Sarkozy vient d'être libéré aujourd'hui, lundi 10 à 14h. Et là, on le voit sortir de la prison de la santé. Bref, 3 semaines, est-ce que vous trouvez que c'était normal?
Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille.
Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. À caractère sexuel.
Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ignorent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Un client qui a eu la chance effectivement d'être remis en liberté est venu m'expliquer un certain nombre de choses, et notamment la violence qui pullule au sein d'un établissement pénitentiaire.
C'est propriétaire et c'est fonctionnaire, alors ta gueule!
Bienvenue dans le Point Info de 94 degrés à l'ombre, l'émission diffusée chaque dimanche sur les ondes rennaises dans le but de lutter contre toute réforme d'enfermement. Actualité carcérale, textes, témoignages, discussions politiques. Cette seconde partie met en lumière les violences de la privation de liberté.
Participe toi aussi à l'émission en nous contactant par mail au 94degrésalombre@protonmail.com, par téléphone au 02 99 52 77 66 ou sur la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Si tu veux te joindre aux luttes anticarcérales, tu es le bienvenu dans les studios de Canal B, tous les dimanches de midi à 14h.
Retrouve ce Point Info sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Deezer et bien plus encore. Et écoute l'intégralité de notre émission sur canalb.fr, dans laquelle nous diffusons des dédicaces entre des personnes détenues et leurs proches.
Bonne écoute à toutes et à tous.
Salut.
Coucou.
C'est Sauterelle.
Et c'est Oscar.
Du coup, on est 94 degrés à l'ombre, comme vous avez entendu. Vous avez entendu dans la présentation, on est une radio anticarcérale. Et habituellement, on fait une première heure d'émission où on partage les dédicaces entre les détenus et leurs proches. Et en deuxième partie, on discute plus d'actualité ou de politique autour de l'enfermement. Mais donc là, on va se mettre en pause pour quelques mois parce qu'on n'était plus assez nombreux et plus avec assez d'énergie pour continuer. Mais on espère revenir en septembre. Voilà. Et donc pour cette dernière émission, on reçoit à nouveau Horizon Palestine. Il et elle sont 4 dans les studios. Si vous voulez dire vos prénoms ou pseudos.
Eh ben, salut, moi c'est Lucie.
Salut, moi c'est Camille.
Salut, moi c'est Kipik.
Salut, moi c'est Kamal.
Bienvenue dans les studios.
Merci.
Est-ce que vous voulez parler un peu de votre collectif Horizon Palestine?
On en a parlé lors de la dernière émission, je pense.
Oui, donc on va résumer, parce qu'on avait fait une présentation un petit peu plus contextualisée la dernière fois. Horizon Palestine, c'est un collectif rennais qui créé en 2018, qu'on aime dire qu'on l'a créé de manière affinitaire. C'est un collectif avec une boussole palestinienne, décoloniale, antiraciste, féministe, où on a à cœur de respecter la centralité palestinienne. Et on se complète avec les autres assos et collectifs mobilisés sur le terrain rennais pour la décolonisation, la libération de la Palestine, la fin de l'apartheid, le retour des réfugiés, le droit à l'autodétermination, la libération de tous les prisonniers, l'arrêt du génocide et les sanctions contre le régime colonial.
Et juste ajouter que Horizon Palestine a pour but de relayer les luttes palestiniennes de là où elles se font, dans l'histoire et dans l'actualité, à Rennes, dans le moment présent, pour sortir de la victimisation des Palestiniens et des Palestiniennes, mais de les rendre et de relayer leur lutte en tant qu'acteurs et actrices aujourd'hui anti-impérialistes, anti-racistes et anti-coloniales.
Et du coup, il y a deux semaines, on avait parlé des prisons à proprement parler de l'État colonial israélien et des prisonniers politiques palestiniens. Et cette semaine, vous pouvez préciser si ça vous convient pas, mais on parle plutôt de l'impact de l'enfermement et de la répression sur tous les Palestiniens et Palestiniennes, en très gros.
Ouais, en fait, on est sur une idée de considérer la particularité du colonialisme israélien comme on a parlé de la prison à l'intérieur la dernière fois. Là, en fait, on va parler de la prison à l'extérieur. La notion d'enfermement et de contrôle des corps, elle concerne aussi toute la vie sociale des Palestiniens et Palestiniennes.
Et ben donc pour introduire ça, on a un enregistrement d'un camarade d'Horizon Palestine qui est pas là aujourd'hui.
Vous avez sûrement déjà entendu parler des prisons israéliennes en Palestine occupée. Peut-être celle de l'autorité palestinienne également. Mais je voudrais vous parler d'une autre prison. La vie quotidienne des Palestiniens et des Palestiniennes qui vivent en Cisjordanie et à Gaza. La première, la prison israélienne, où sont détenus plus de 10 000 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, soumis aux formes les plus odieuses de torture et de mauvais traitements. Ensuite, il y a la prison palestinienne et les forces de l'ordre de l'autorité palestinienne, en coopération avec l'occupation israélienne, qui étouffe les voix palestiniennes et arrête toute personne qui la critique. Des centaines de militants, les étudiants et les prisonniers politiques sont détenus dans des prisons palestiniennes où ils subissent des actes de torture, de violence et même de meurtre. Dans la prison et en dehors, comme le militant Nizar Banat, qui s'est fait assassiner chez lui par les forces de l'ordre palestinien. Certains ont même été livrés par l'autorité palestinienne aux forces d'occupation israéliennes. Même les manifestants de solidarité avec Gaza pendant le génocide ont été réprimés et ont donné lieu à des arrestations. Le rôle de l'autorité palestinienne n'est pas de protéger les sécurités palestiniennes, mais bien la sécurité israélienne. Enfin, la troisième prison concerne la réalité et la quotidienne des Palestiniens. Gaza et la Cisjordanie sont des prisons à ciel ouvert, cernées par des murs d'apartheid, des portes, des points de contrôle militaire et des routes dont le seul but est de restreindre les Palestiniens, de limiter leur liberté de mouvement et de les asphyxier économiquement. En Cisjordanie, après le 7 octobre, les forces d'occupation ont érigé de nouvelles portes et de nouveaux points de contrôle. Leur emplacement divise la Cisjordanie en trois, au nord, au centre et au sud, comme les colonies, qui sont construites avec un plan de division et non par hasard. En Cisjordanie, on compte plus de 900 portes et points de contrôle, dont plus de 150 ont été érigés après le 7 octobre. L'objectif est d'isoler les villes et les villages les uns des autres et de contrôler les Palestiniens, car les forces d'occupation sont capables de boucler n'importe quelle ville palestinienne très rapidement. À cela s'ajoute l'isolement économique dont souffrent les Palestiniens, notamment les commerçants. La Cisjordanie a connu une escalade sans précédent de la violence et de la répression dans le cadre de ses efforts d'annexion territoriale. Israël a intensifié sa campagne militaire dans le nord de la Cisjordanie, en particulier autour de villes comme Jenin, Nablus et Tulkarem. Cette campagne inclut l'application de sanctions collectives contre des communautés entières, tels que des raids sur des camps de réfugiés, des arrestations massives, la destruction d'infrastructures et le bouclage total de ces zones. La ville d'un Palestinien est similaire à celle d'un prisonnier érigé par des murs d'apartheid où la liberté d'expression, des pensées, des déplacements étaient empêchées et soumises à l'occupation.
Thank you. التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم
Et maintenant, Lucie, tu voulais peut-être à nous en dire un peu plus sur cette troisième prison dont parle le camarade qui concerne tous les Palestiniens et Palestiniennes.
Oui, qu'on a diffusé sous la notion de toile carcérale qui a été particulièrement développée par Stéphanie Latabdala, dont le travail nous a largement inspiré pour ces deux émissions. Donc, en Palestine, la prison est partout. Dehors, c'est aussi la prison. La toile carcérale dont il est question en Palestine, c'est le carcéralisme plus la carcéralité sous colonisation. Le carcéralisme, c'est la tendance à privilégier l'incarcération, l'emprisonnement, comme moyen de lutter contre le désordre de la société. La carcéralité va au-delà de l'incarcération. Elle inclut les manières dont sont façonnées et organisées la société et la culture, par le biais des politiques et de logiques de contrôle, de surveillance et de criminalisation. L'état carcéral englobe tous les aspects de la vie dans lesquels les personnes sont soumises à la surveillance et à la menace de politiques punitives sous prétexte de sécurité. La notion de toile carcérale est rend compte de la réalité de l'incarcération massive des hommes en Palestine. La possibilité d'une détention potentielle plane au-dessus de la tête des Palestiniens par un cadre juridique qui permet d'incarcérer n'importe qui à partir de l'âge de 12 ans. La répression massive par le carcéral constitue une violence continue, spécifique aux conditions de colonisation. Et la toile carcérale, c'est le gouvernement de la population par le système pénal et militaire, de telle sorte que le dedans et le dehors se confondent. Et que la carcéralité envahit l'espace territorial, relationnel, les corps, les esprits. Personne n'est à l'abri de ce dispositif de contrôle qui place un peuple entier dans une situation permanente d'incertitude et de menace. La prison est un rappel à l'ordre colonial qui regroupe l'ensemble des Palestiniens et des Palestiniennes, quel que soit leur statut juridique lié à la colonisation. Par exemple, la bande de Gaza, le plus grand camp de réfugiés du monde, est devenue une prison à ciel ouvert, sous siège et blocus militaire depuis 2006. À Gaza assiégé, les soldats de l'occupation sont comme les gardiens de prison qui privent les Palestiniens et les Palestiniennes de tout contact avec l'extérieur. Et en Cisjordanie occupée, les déplacements sont conditionnés à l'intérieur au bon vouloir du geôlier. À la période de la seconde intifada, entre 2000 et 2004, les autorités coloniales ont installé de nouveaux dispositifs territoriaux militaires, institutionnels, pour pérenniser l'occupation des territoires palestiniens. Et ce redécoupage a isolé les espaces palestiniens, comme on l'a entendu dans l'audio du camarade. Ça a permis le bouclage potentiel, tout en gérant les mobilités entre eux. Donc, l'armée d'occupation a constitué ce qu'elle a appelé des cellules territoriales, donc c'est un terme du régime colonial. La circulation est fluide pour les colons et contrainte pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Des populations distinctes parmi les Palestiniens ont des permis de circulation différents. La toile carcérale elle repose aussi sur le double régime juridique de l'apartheid, l'application de privation de liberté des Palestiniens et Palestiniennes dans les territoires occupés et entre les mains de l'armée coloniale, qui écrit, applique, révise ces lois martiales qui ne concernent que les Palestiniens. Le droit intérieur israélien s'applique, lui, aux colons juifs, qui résident illégalement dans les territoires occupés. Et l'armée israélienne a la même logique que le gardien de prison. Si vous résistez, il y aura des représailles, des punitions collectives, des privations. La carcéralité coloniale contre le peuple palestinien cumule l'emprisonnement et des techniques de confinement qui enveloppent l'ensemble d'un territoire, accompagnant et facilitant la saisie arbitraire des terres et les déplacements forcés des Palestiniens et des Palestiniennes.
C'est ben, clair. Oui, je pense que c'est très dense. Ouais. Est-ce que je peux essayer de faire de dire ce que j'ai compris que ouais. les Palestiniens, que la Palestine elle a été découpée lors de la colonisation et qu'il y a la bande de Gaza dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il y a la Cisjordanie, mais qui en fait est découpée aussi en trois zones. Et il y a aussi Jérusalem-Est. Et en fonction de où les Palestiniens habitent, ils ont déjà pas les mêmes... Enfin, ils vivent pas les mêmes choses, ils ont pas le même statut juridique, etc.
Juste quand on dit découpé en trois zones, c'est trois zones de régime. Mais en fait, il faut bien comprendre que la Cisjordanie, c'est une espèce de tache de léopard, comme disaient les camarades hier. Et donc, chaque tache est attribuée à telle ou telle zone. Et donc, qui contrôle, comment ça se déplace, comment ça se verrouille, qui a la responsabilité de verrouiller ou pas. Et se rajoute en plus toutes les nouvelles techniques de surveillance qui sont hyper modernes, avec l'usage de l'informatique, de la reconnaissance faciale, c'est tout ça.
Ok. Oui, donc on y reviendra après, vous l'avez déjà dit, mais donc c'est très morcelé, mais en fait, on imagine aussi que du coup, ça impacte les vies de famille, la possibilité de travailler, voilà, on va développer ça tout à l'heure. Je crois que vous vouliez donner l'exemple, peut-être pour y voir plus clair, de une ou deux villes.
Oui, alors quand on parle de justement de ce que tu évoquais là, de comment les Palestiniens et Palestiniennes, ils sont fractionnés non seulement dans leur territoire, mais aussi dans leur statut juridique, ça c'est une application de l'outil apartheid par le régime colonial. C'est comme un outil de contrôle de la population, hein, c'est-à-dire que l'accès aux ressources agricoles, électriques et à l'eau, la construction des maisons, l'accès au travail, aux soins, aux visites des proches, aux prisonniers, la possibilité d'une vie commune aussi pour les familles, elle est conditionnée au statut administratif que chacun aura en fonction de son lieu de résidence. Donc quand on parle de ça, on parle aussi des Palestiniens de 48. Donc les Palestiniens de 48, c'est les descendants des Palestiniens qui n'ont pas été expulsés lors de la Nakba en 48 et qui ont pu rester dans leurs villes et villages avec la création de l'État d'Israël. Donc ils sont à l'intérieur des dites frontières d'Israël. Donc ils sont citoyens israéliens. Mais avec des fortes discriminations du fait d'être palestiniens arabes. Ils ne sont pas juifs, donc ils n'ont pas accès aux mêmes privilèges. Il y a une véritable politique de discrimination à l'intérieur même de l'État colonial. Donc de fait, ils sont palestiniens de 48, ils n'ont pas les mêmes droits non plus que les autres. Donc comme tu le disais, il y avait les Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie qui ont d'autres formes d'autorisation, et ceux de Jérusalem-Est qui eux ont un statut de résident dit permanent mais qui peut être annulé arbitrairement par le régime colonial.
Oui, comme on avait vu avec Salah Hamouri.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, ils ne peuvent pas se déplacer librement d'une zone à l'autre. Ils doivent obtenir des permis spécifiques pour chaque nature de déplacement, qui sont toujours temporaires aussi, dans le cas où ils sont octroyés. Ils sont soumis à de nombreux checkpoints dont le passage peut durer des heures et ne pas aboutir. Et donc, ils n'ont aucune liberté d'installation. Donc, quand on parle des villages, notamment de chacune des tâches, des cellules territoriales dont on parlait tout à l'heure, en fait, ils ne peuvent pas faire de nouvelles constructions, puisque ces autorisations-là, elles sont dans les mains du régime colonial. Les statuts administratifs, les faire des papiers d'identité pour les Palestiniens et Palestiniennes, c'est dans les mains du régime colonial. Donc ça aussi, ça dépend beaucoup. Ça veut dire que ça facilite le fichage aussi de chaque membre de la société palestinienne. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si. Pardon, vas-y.
Non, mais c'est juste parce qu'il y avait des exemples.
Oui,
aussi,
tout à fait, il y avait des exemples, exactement.
Mais que du vous coup, aviez préparé.
Là, les trucs auxquels je pense, c'est que c'est hyper, c'est hyper complexe à comprendre. Est-ce que ça n'a pas un rôle aussi pour. Enfin, comment dire, quand les règles et les lois sont hyper dures à comprendre, ça fait qu'on accède très difficilement à ses droits aussi. Enfin, est-ce que c'est un.
Bah, les Palestiniens et Palestiniennes, ils savent à ce qu'ils ont.
Ouais, okay.
Enfin, ils savent surtout à quoi ils n'ont pas le droit.
Ouais.
Puisque c'est le principe, c'est que de réduire au maximum leur existence. Hein. C'est le projet de base. Mmh. Donc la résistance des Palestiniens et Palestiniennes, elle est aussi basée sur le fait que leur existence, c'est de la résistance. Donc eux, ils savent, en fonction de là où ils vivent, s'ils veulent se déplacer à Jérusalem, alors quand ils n'y vivent pas, où est-ce qu'ils doivent demander l'autorisation? S'ils veulent construire, où est-ce qu'ils doivent demander l'autorisation? Donc par exemple, si on s'intéresse aux Palestiniens 48, on peut donner l'exemple du village de Jisr al-Zarqa, qui est situé au nord d'Israël. C'est un village de pêcheurs palestiniens de 48, qui est entouré de riches villes israéliennes. Il compte environ 15 000 habitants. C'est une des villes les plus pauvres d'Israël, où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et Jisr al-Zarqa est ceinturé sur les quatre côtés, donc ce qui empêche le village de s'étendre, puisque au nord, il y a une colonie agricole, qui est une zone considérée réserve naturelle, qui est aussi un des moyens d'empêcher l'extension des villages palestiniens et leur déplacement. Au sud se trouve la ville israélienne de Césarée, qui a été construite sur les décombres d'un village palestinien de 52. Et à l'est, c'est l'autoroute, qui a été construite dans les années 60, et qui a privé les habitants du village de centaines d'hectares de leurs terres agricoles historiques. Et à l'ouest, c'est la mer Méditerranée. Donc il y a un habitant qui explique. Je passe le message.
Nous avons l'impression de vivre dans une prison, dans tous les sens du terme. Ce sentiment d'emprisonnement n'existe pas seulement d'un point de vue géographique, mais aussi sur le plan éducatif, économique et social, dans toute notre vie quotidienne. Nous le voyons à travers la politique de zonage. Il nous est interdit de construire quoi que ce soit à moins de 200 mètres des frontières avec les municipalités juives et à moins de 100 mètres de la mer ou près de ce que l'État classe comme site archéologique. Il y a plus de 400 maisons sans permis, toutes sont en attente de permis de l'autorité israélienne de planification et de construction. Tous les hangars et entrepôts ici dans le village, selon la loi israélienne, sont sans licence. Nous sommes constamment sous la menace de démolition, ce que j'ai vécu. En plus des démolitions, nous recevons des mandats et des amendes. Plus de 80% des résidents ont encouru de lourdes amendes des autorités et des tribunaux. Tout le monde a eu des amendes et est allé au tribunal plusieurs fois.
Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut se passer pour les Palestiniens de 48 en fonction de là où ils habitent. Un des exemples qu'on peut donner en Cisjordanie occupée, c'est la ville d'Hébron, qui est une ville très particulière pour ce qui concerne la colonisation, parce que c'est une ville où les colonies, il y a des colonies autour, mais pas seulement. Il y a aussi 800 colons à l'intérieur même de la ville. C'est une des plus grandes villes de Cisjordanie occupée, et donc c'est la seule où il y a des colonies implantées à l'intérieur. Du coup, ça a créé aussi forcément des modes de enfin, il y a eu des massacres, hein, pour le coup, dans l'histoire d'Hébron. Et c'est une ville qui a été divisée en deux en 1997. 80% de la ville est administrée par l'autorité palestinienne, et 20% est contrôlée par le régime colonial. Donc il y a et la police palestinienne et l'armée. Donc il y a environ 40 000 Palestiniens qui voient leur vie quotidienne impactée par l'occupation militaire et la colonisation des 800 colons. Puisque tout est fait, la priorité c'est de, entre guillemets, protéger les colons.
Qui s'installent au cœur des rues, ouais. Dans des fois en rez-de-chaussée. Ouais. Donc l'armée vient protéger au cœur des territoires qui étaient majoritairement palestiniens, les quelques familles qui se sont installées à Hébron.
Donc là aussi, on retrouve ce qu'on trouve partout, ce qui est indiqué comme la politique de zonage, qui organise aussi les autorisations ou interdictions de déplacement des Palestiniens d'Hébron. Donc il y a une cartographie où on retrouve dans la zone violette, c'est les Palestiniens qui ne sont pas autorisés à conduire. Sur les routes cartographiées en pointillés, ils n'ont pas le droit d'ouvrir des magasins. Et dans les zones rouges, qui sont appelées zones stériles, ils n'ont carrément pas le droit de venir. Il y a 800 entreprises du centre-ville qui ont vu leurs portes soudées, donc c'est des commerces qui ont fermé. Et il y a des familles palestiniennes qui vivaient dans les appartements au-dessus de ces commerces-là qui ont décidé de rester. Elles sont peu nombreuses, mais elles ont résisté de cette manière-là. Et puis, elles n'ont pas toujours le choix non plus d'aller ailleurs. Et donc, ça veut dire qu'elles défient le couvre-feu, la violence, le harcèlement.
Elles vivent un régime carcéral dans leur appartement, leur logement. C'est un régime carcéral qui s'installe autour de leur maison.
elles ont mis des grillages en fait autour de leur balcon, parce que sinon elles se prennent constamment des jets d'objets, de pierres de la part des colons. Donc effectivement, il y a cette impression-là d'enfermement par le fait même de leur manière d'être obligés de se protéger. Donc c'est un double effet. Et donc la pression, elle est constante. Actuellement, elle s'est aussi aggravée. Hein. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a aussi eu des morts. Il y a eu des victimes là, chez les Palestiniens et Palestiniennes qui sont soit tués par des colons, soit par l'armée.
On assiste actuellement à des gens qui viennent entrer dans les apparts et s'installer dans les appartements de Palestiniens en direct.
Donc en fait, Hébron, c'est extrêmement particulier dans ce que Kipik disait tout à l'heure sur la surveillance et machin facial, comme on dit déjà, identification faciale.
Reconnaissance faciale.
Reconnaissance faciale, merci. Parce qu'en fait, à Hébron, il y a des caméras partout. Vraiment partout, qu'elles sont toutes dirigées vers les Palestiniens et Palestiniennes. Et du coup, ça veut dire que la prison, elle vous suit. Donc ils sont filmés tout le temps, surveillés tout le temps, non seulement quand ils sont dans la rue, mais effectivement aussi quand ils sont à l'intérieur de leur maison. Donc il y a des caméras qui donnent sur leur chambre, sur leur cuisine, partout. Ils sont effectivement des caméras qui sont installées sur le toit de leur maison, ce qui fait qu'il y a des personnes qui ne viennent plus rendre visite parce qu'ils ont trop peur d'être toujours sous l'œil des caméras. Il y a aussi comment on appelle ça? Je pense aux armes automatiques avec l'intelligence artificielle, en fait, un tireur.
Les drones.
C'est un truc fixe. Je vais pas le retrouver là.
Ouais, c'est une arme automatique.
C'est les tourelles qu'il y avait comme à Gaza, les tourelles automatisées ou pilotées de loin.
Qui repère soi-disant, qui est informatisé, qui repère soi-disant des mouvements inhabituels, et c'est là que ça se déclenche et que ça peut tirer quoi. Et donc il y a aussi là un habitant qui explique un petit peu mieux comment ça se passe, les points de contrôle notamment.
On a 22 points de contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le soldat m'a reconnu avant que j'arrive au point de contrôle. Il me demande de lui donner ma carte d'identité, alors qu'il connaît mon nom. Ils savent que je traverse le checkpoint 10 fois par jour. À chaque fois, ils doivent me fouiller pour me laisser entrer chez moi. Les Palestiniens sont classés par niveau rouge, jaune et vert. Si vous avez déjà été arrêté par l'armée, vous pouvez être catégorisé rouge. Si vous êtes connu pour votre opposition à l'occupation, vous pouvez être classé jaune. Parfois, quand je vais traverser le checkpoint, le soldat peut me retenir 3 heures sans raison.
Donc il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a le fichage de chaque habitant. Donc quand dans la première audio, le camarade indiquait qu'il y avait des raids dans les maisons, quand ils font des raids, donc c'est l'armée qui s'occupe de ça, ils photographient tout le monde. C'est aussi à escient, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs applications avec cette intelligence artificielle-là qui est utilisée contre les Palestiniens et Palestiniennes. Donc ça s'appelle, par exemple, il y a Red Wolf, qui est une application qui est utilisée au checkpoint. Alors c'est les checkpoints fixes, là où il y a les soldats installés de manière fixe, où les Palestiniens sont enregistrés, donc de manière biométrique, et ils comparent les informations quand ils sont contrôlés à cet endroit-là. Il y a une autre application qui s'appelle Blue Wolf, donc c'est très original comme nom. Et ça, c'est aussi une application de reconnaissance faciale. Donc là, les Palestiniens sont pris en photo, y compris les enfants, et lors des passages au checkpoint temporaire, parce qu'il y a des points de contrôle qui sont fixes et des points de contrôle qui sont mobiles sur les routes palestiniennes. Donc là, ils utilisent Blue Wolf pour... J'arrive pas à le dire parce que ça m'énerve. Blue Wolf, merci. Donc ça, c'est vraiment pour prendre les photos et nourrir leurs ressources. Et il y a White Wolf, c'est vachement trop... Bon, le loup blanc, si vous préférez, qui est une application destinée aux colons. Donc ça permet de vérifier si les travailleurs palestiniens possèdent le permis requis pour travailler dans les colonies. Et par contre, elle donne accès à tout un tas d'autres types d'informations qui ne pourraient pas concerner les colons, mais auxquelles ils ont accès quand même. Donc tout ça, évidemment, il y a un super pack qui s'appelle, je le denomine, Wolf Pack. Voilà. Où tout le profil, du coup, le profil complet de la personne est enregistré. Donc là, ils ont accès à son nom, son lieu de résidence, les membres de sa famille, l'immatriculation de sa voiture, s'il est recherché, s'il a déjà été emprisonné. Ce qui permet du coup de faire toutes les politiques de représailles, de menaces quand ils sont arrêtés. Et c'est ça, c'est sans compter le système mis en place aussi par les colons, indépendamment de l'armée, qui ont leur propre caméra, leur propre mode de surveillance, et qui sont financés par One Israel Fund, qui leur file du matériel, notamment des drones, qu'ils utilisent contre les Palestiniens pour surveiller les cultivateurs et disperser les troupeaux, par exemple.
Juste sur les financements des colons, des dispositifs autonomes des colons, c'est beaucoup des financements étrangers. Mmh. C'est essentiellement des sionistes américains, européens, occidentaux, qui vont financer, dont les évangélistes dont on parle, d'où, vous voyez, le lien qu'on peut faire avec l'extérieur.
Et ben, là, ce que tu décris, enfin, c'est genre effrayant de à quel point, enfin, les moyens qu'a Israël et la répression qui est constante à chaque instant. Et pourtant, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a de la résistance qui existe quand même malgré ça. Est-ce que vous voulez qu'on passe à ce point-là ou...
Ouais, juste un petit préalable avant pour clore et passer à la deuxième étape. On voit par rapport à ce qui est succinctement décrit. Que toute la technologie d'apartheid et de colonisation fait d'Israël une avant-garde de ces technologies-là que l'on va retrouver après dans les contrôles des migrants partout dans le monde. Et en Europe, ben, ça va nourrir Frontex, qu'on va retrouver avec Aegis dans les CRA et les prisons, dans la gestion de la géographie et la technologie de surveillance et d'enfermement. Et donc voilà, ça c'est des choses qui se déploient. Et au-delà de ça, ben, je vous renvoie, parce qu'on peut le voir librement, c'est le dernier film de Mathieu Rigouste. Certainement vous en avez déjà parlé ici.
On a interviewé Mathieu Rigouste il y a quelques semaines, moi.
Oh, ok, voilà. Donc vous voyez, vous faites le lien et ça rend concret là où les choses s'inventent et s'expérimentent. Et... pour faire maintenant le lien avec la deuxième partie, ben, face à cette toile carcérale, il faut comprendre que depuis le départ, depuis la Nakba et le début de cette toile pour enserrer les corps, les contrôler, leur mouvement, leur économie, leurs relations entre eux, les Palestiniens et les Palestiniennes n'ont pas eu d'autre choix que de lutter, de résister. Et cette résistance, la centralité de la prison, on l'a vu lors de la dernière émission, on a vu qu'elle était hyper importante parce qu'elle créait des ponts entre des personnes qui étaient de villages et de localités isolées. Donc ça créait des solidarités entre territoires. Mais surtout, il y a toute une partie de la résistance palestinienne ou des luttes palestiniennes que je dirais qu'on pourrait utiliser le terme de reproduction de la lutte palestinienne qui... Si les hommes sont très présents dans la lutte, sont majoritaires en prison, etc., bien que les femmes soient là, dans la reproduction de la lutte palestinienne, c'est quasi exclusivement que des femmes qui portent cette lutte-là. C'est celle qui fait justement réseau de solidarité, de soutien à la lutte, qui passe par plein de choses, hein, des solidarités amicales, par des partis politiques, mais la cellule la plus importante en Palestine, c'est la famille et le clan familial, et souvent avec un héritage et une histoire liée au village d'origine. Et c'est pour ça que, pour illustrer cette deuxième partie, on va rentrer dans un petit village qui s'appelle Nabi Saleh. Nabi Saleh, c'est un petit village à 20 km de Ramallah, donc on est au cœur de la Cisjordanie. Nabi Saleh n'a pas été détruit lors de la Nakba en 1948, mais il a été largement occupé à partir de la Naksa, qui est le gros moment de nettoyage ethnique après la guerre des six jours, où Nabi Saleh, qui était sous contrôle jordanien, passe est annexé par Israël. Et dans la communauté de Nabi Saleh, il y a des clans familiaux qui sont essentiellement des agriculteurs, quelques instituteurs, quelques infirmiers, quelques médecins, mais c'est essentiellement des agriculteurs. Et je voulais mettre en exergue autour de ce à Nabi Saleh, il y a eu des luttes en 2011 et 2016. Tous les vendredis, il y avait des manifestations où tous les villageois et les villageoises allaient lutter contre cette phase de colonisation, la dernière qui est encore en cours aujourd'hui, où on a installé des colons tout autour d'eux, autour du mur. Donc ils sont, je le rappelle, à 20 km de Ramallah, mais c'est impossible, quasiment impossible d'aller à Ramallah librement. Sortir de Nabi Saleh, c'est devenu très difficile. Tout autour, on a construit des murs, on a installé des colonies, et les habitants eux-mêmes ont été déplacés souvent de leur maison, où ils sont réinstallés un peu plus loin. Et juste pour dire, au moment de l'Anaxa en 67, il y a la moitié du village qui a dû se déplacer, réfugié un peu partout en Palestine ou en Jordanie. L'autre moitié est restée. Ce sont ces descendants-là qui n'ont pas cessé de lutter depuis. Et l'idée, c'est de vous donner quelques éléments pour vous expliquer la lutte à partir d'un livre. Et juste, Nabi Saleh, pour les personnes qui suivent un peu la cause palestinienne et le combat de Nabi Saleh, il y a une figure qui est sortie d'une jeune fille blonde, 11 ans, qui repousse à main nue les soldats. C'était en 2011. Et ces images ont fait le tour d'Internet. Et il se trouve que cette jeune fille, c'est la génération des réseaux sociaux, donc elle va commencer à filmer et à utiliser les portables. Elle s'appelle Ahed Tamimi, et le livre dont je vais citer quelques extraits, c'est Assia Zaino, qui est une spécialiste des prisons et des luttes des prisonniers en Palestine, et qui justement a fait un entretien et est restée de 2010 à 2015 à Nabi Saleh, donc pendant la période dont on parle de lutte, et elle va interroger des membres d'un clan familial, les Tamimi, dont Ahed, la plus connue, si on tape, on la retrouve facilement. Mais on s'aperçoit que dans la famille, dès 67, ils résistent. Et je vais faire une première lecture et les deux extraits. Et j'ai choisi volontairement la grand-mère qui, elle, lutte depuis 1967 par deux courts extraits. Que veux-tu que je te dise ? J'ai commencé à visiter les prisons en 1967. Quand mon mari était détenu. Et là, je suis encore dans la même situation. Il y a eu une période où tous mes fils étaient en prison, tous. Et moi, j'allais les voir dans trois prisons différentes. Dans la même journée, je faisais le tour de la Palestine pour les voir. Parfois, je ne savais pas où ils étaient. Ils avaient été transférés sans que je le sache. Un jour, je les ai cherchés dans toutes les prisons de Palestine sans les trouver. Sous la pluie, sous le soleil, je montais dans le bus et j'allais les voir. Mohamed dans la prison d'Al-Khalil à Hébron, puis Abu Ali et enfin Saïd à Adarim. C'était ça ma vie, des allers-retours continuels d'une prison à l'autre, d'un procès à l'autre. Et la nuit, j'étais seul avec moi-même. Lorsque Mohamed était en prison, les Mukhabarat, les services, la police politique palestinienne, les Mukhabarat ont essayé de le faire collaborer. Ils l'ont menacé d'exiler sa famille, mais il a refusé. Alors les soldats sont arrivés, ils ont pris Nejie, sa femme, et ses trois enfants, et les ont emmenés à Pont Allenby, à la frontière de la Jordanie. Pendant 2 ans, j'ai été complètement seul. Mes yeux se sont flétris à cause de toutes les larmes que j'ai versées. J'avais des yeux magnifiques. J'avais des yeux magnifiques, moi, avant que toutes ces souffrances commencent. Saïd, mon fils, me le disait toujours, que mes yeux étaient les plus beaux de tous. Ça, c'était la page 153 du livre « Des hommes entre les murs, comment la prison façonne les vies des Palestiniens » d'Assia Zaino. Deuxième extrait. Toujours Fatima Oumsaïd. C'est une torture. Tu penses que nous sommes libres car nous ne sommes pas en prison? Non. Nous vivons des tortures et des humiliations continues. tout comme nos fils prisonniers. Qu'est-ce qu'il reste à dire ? Rien. Son petit-fils plaisante. Khlas, Yajda, ça fait une heure que tu dis qu'il n'y a rien à dire et tu continues à parler. Non, attends, je veux te raconter une dernière histoire. Pendant l'intifada, Mohamed et Saïd sont entrés dans la clandestinité pendant un an. Toutes les nuits, les soldats arrivaient à la maison et cherchaient mes fils. Mais eux étaient cachés dans la colline parmi les oliviers. Un jour, ils sont arrivés à 4 heures du matin. Ils cherchaient Mohamed. Ils ont fouillé toute la maison et moi je leur ai dit « Mohamed n'a pas peur de vous, il ne se cacherait pas dans l'armoire comme un enfant effrayé. Tout comme son père, il n'a rien fait. Pourquoi vous le cherchez ? Vous m'avez déjà privé de mon mari et de ma fille et maintenant vous voulez me prendre mes enfants ?» Ils m'ont insulté et moi j'ai répondu avec d'autres insultes. Ils ont dit qu'ils l'avaient vu s'enfuir. Ils m'ont menacé. Puis le chef des Mukhabarat de l'époque, que nous appelions Assad, le lion, a regardé le cendrier et m'a demandé « Si Mohamed n'est pas là, qui a fumé toutes ces cigarettes ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit que je fumais beaucoup. Puis j'ai pris une cigarette du paquet de mon fils et je l'ai allumée. J'ai essayé de toutes mes forces de paraître naturel, de ne pas tousser. C'était la première fois de toute ma vie que je fumais. À l'époque de l'intifada, j'avais les soldats presque tous les jours à la maison. Ils me menaçaient, ils me poussaient, mais moi j'étais forte, je les poussais aussi et je leur crachais au visage. Quand Saïd était dans la clandestinité, lui et les Shababs venaient me voir chaque nuit. Je leur préparais à manger et je leur donnais des vêtements propres. Quand les soldats étaient à la maison, j'allumais une lumière pour qu'ils puissent le voir et se cacher. Voilà. Si vous tombez sur les vidéos de Ahad Tamimi, quand j'ai lu cet extrait, ça m'a fait penser à Ahad qui a dû voir sa grand-mère plein de fois chasser les colons et qui, elle, a décidé de prendre avec les outils qu'elle avait une téléphone, un smartphone et de les diffuser. Et ça a documenté. Mais je trouve que... Alors ce bouquin, il est super important parce qu'il rend visible des choses qui doivent se retrouver dans tout. Plein de villages, plein de clans familiaux et qui doivent se raisonner les uns les autres. Les Tamimi sont connus. Ils ont eu beaucoup de personnes qui ont été tuées, assassinées dans leur famille. Ils ont eu des figures de la résistance. Depuis le 7 octobre, Ahed a été emprisonné avec son père pour une énième fois parce que son père, il n'a pas arrêté de rentrer et de sortir. Ahed, c'était sa deuxième après la gifle qu'elle a donnée à... en direct, en mondovision à un soldat israélien. C'était sa deuxième incarcération. Ahed a pu sortir lors de la négociation avec le... Elle a fait partie des détenus qui sont sortis et elle avait été incarcérée pour un tweet ou un post. Et son père est encore actuellement en incarcération, mais administrative. C'est-à-dire où on renouvelle 6 mois en 6 mois et on le garde comme ça. Et bon, dans ce bouquin, c'est que des entretiens. Et elle est restée 5 ans au cœur de la famille. Et on rentre vraiment dans la famille. Par exemple, là, le court extrait avec la grand-mère, on renoue avec la tradition de l'Qasas ou Mhajie, qui est, on se retrouve autour de la grand-mère ou de l'aîné, on lui demande de raconter des anecdotes et des histoires sans spécialement être dans la chronologie, etc., où chacun des petits-enfants vient questionner la grand-mère, où tu m'as dit ça, mais pour que l'autre entende aussi. Ah, tu m'as dit ça, rappelle-nous ça, etc. Et donc, les passages que je vous ai lus, c'est une séance comme ça de se narrer collectivement. Et ça permet aussi de faire quelque chose, de mettre la lumière sur quelque chose qui, à Horizon Palestine, nous tient beaucoup à cœur. C'est beaucoup de choses sont passées par l'oralité, y compris dans la détention, puisqu'il y avait l'interdiction d'écrire, qu'ils se sont battus pour écrire, et que la transmission orale est fondamentale.
Tout à l'heure, quand je vous entendais parler des différents statuts, ça m'a fait me dire que peut-être ça pouvait créer de la jalousie, de la division entre les Palestiniens. Le fait que quand on n'a presque rien, et ben celui d'à côté, potentiellement, il a un tout petit peu plus grâce à un statut différent, ben ça pouvait amener à de la division. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans des politiques coloniales, de venir créer des inégalités, des divisions au sein du peuple colonisé. Et donc je me demandais à quel point c'était quelque chose qui était présent entre les Palestiniens, quoi, potentiellement de la jalousie et des trucs comme ça.
Ben, ce qui est sûr, c'est que la colonisation, elle a organisé la fragmentation de la vie sociale et économique et culturelle en Palestine. La mainmise sur les statuts administratifs en fonction du lieu de résidence, c'en est qu'un aspect. À cela s'ajoute aussi, comme on l'a évoqué, la politique de zonage et celle de l'accès à la construction ou à la propriété. Le poids sur les familles palestiniennes est peut-être fonction de leurs conditions matérielles d'existence préalables, selon que ces familles elles sont issues d'une classe bourgeoise, ouvrière ou paysanne. Mais ce poids-là de la colonisation, il reste colossal en fait. La colonisation, elle est soutenue par les moyens d'un capitalisme ultralibéral, extractiviste. Et du coup, ça expose celles qui la subissent à la corruption, à la logique personnelle, au refus de se sacrifier. Comment on survit face à un projet d'effacement ? Il y a celles qui ont les moyens de quitter le pays, il y a peut-être celles qui parviennent à maintenir un niveau matériel d'existence parce que ils regardent pas trop, ça veut dire à condition de pas trop regarder les conséquences aussi de ça, quoi, de maintenir son niveau de privilège, entre guillemets, son niveau de bourgeoisie pour peu que ce qui fasse partie de cette classe-là. Pour beaucoup, en fait, être contraint de travailler pour les colons, c'est déjà un renoncement difficilement supportable. Donc le choix, il peut pas être binaire entre collaboration et résistance du point de vue des personnes colonisées. C'est pas non plus des considérations de jalousie. En fait, ça, c'est quand même une notion qui reste de l'affect infantile. Là, il s'agit pas du tout de ça, à mon sens. On est plutôt sur le fait que la question des traîtres, de la complicité au renoncement à la Palestine par le consentement à la colonisation, c'est une question qui existe au sein de la société palestinienne, mais c'est surtout comment ne pas se faire prendre par la responsabilité du côté des colonisés, alors que la réalité, c'est qu'ils font bien ce qu'ils peuvent face à un pouvoir colonial énorme qui se maintient parce qu'il a des complicités par ailleurs par d'autres États et que la Palestine est toute seule. Donc voilà, il y a une question aussi politique des organisations de résistance avec une population qui est tout à fait qui a plusieurs figures, qui a plusieurs images. En fait, c'est pas une société monolithique avec une seule idée. Voilà, il y a de la diversité. Donc il y a aussi des moyens et des stratégies d'adaptation, de résistance ou de supporter, de trouver des moyens de survie forcément différents. Et il y a aussi de la corruption du côté des Palestiniens et Palestiniennes, de fait.
Et ben voilà, on peut conclure. Merci de nous avoir écoutés. C'était Horizon Palestine. Et nous, on va continuer la lutte aux côtés des Palestiniens pour la libération de la Palestine.
Eh ben, on vous dit merci beaucoup, au revoir.
Et bon dimanche à tout le monde.
Merci.
استأصل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا تسرقوا علومنا ونهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا
Si l'écoute de cet épisode, ça vous donne envie de vous mobiliser, vous donne quelques exemples de choses qui peuvent être faites. Il y a Urgence Palestine qui existe dans plein de villes en France. Il y a aussi les campagnes, la campagne boycott des investissements sanctions, BDS. Il y a aussi Stop Arming Israël. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et cette semaine, le samedi 30 mai, dans plusieurs villes en France, à Rennes, c'est à 15h à République, il y a une manifestation en soutien à Ali. Ali, c'est un réfugié palestinien qui est en France et qui est incarcéré en France depuis 2 ans. Il avait déjà été incarcéré par l'État colonial Israël en Palestine avant. Et là, suite à des accusations d'Israël, alors qu'il a un statut de réfugié, il a été incarcéré en France. Et là, son incarcération, elle a été prolongée pour 6 mois encore. Donc voilà, il y a des grosses manifs de soutien qui arrivent, venez nombreux et nombreuses.
أرسلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا وعينوا حكامنا وانهبوا خراتنا واحرقوا أشجارنا فجروا ديارنا وكذبوا أقوالنا وشاهدوا أوجاعنا واستصغروا عذابنا تجاهلوا دموعنا